Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, le portrait sonore d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bacri, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Avec ses rôles de bourru misogyne, sa maladresse sensible, ses coups de gueule, ses personnages un peu réac, un peu fatigués, toujours énervés, il était comédien mais il était surtout quelqu'un qu'on aimait bien. De ceux qui nous montrent la voie du combat au quotidien, des luttes minuscules, pour avancer ensemble avec le goût des autres et surtout le sens de la fête.
Je me vois comme un optimiste déçu, mais je suis optimiste. Au bout du compte, je suis optimiste. Par exemple, je vais vous montrer à quel point je suis optimiste, c'est un exemple. Je pense que je serai vivant lorsque l'Israël et la Palestine vivront main dans la main.
Ah ouais?
Ah, ouais.
C'est-à-dire que je vois la bassesse des gens, je vois le manque de justice partout où il est. Mais à la fois, tout signe me comble, tout Itzhak Rabin me donne espoir. Je m'estime optimiste et les gens qui me connaissent savent que je suis optimiste. Ils en sourient même. Je suis toujours le plus optimiste de la bande. Je suis fait comme ça. Ça, je pense que c'est mon papa et ma maman qui m'ont rendu comme ça, qui m'ont donné cette confiance, qui fait que je me dis que ça ira, ça va aller.
Jean-Pierre Bacri, tellement libre. 24 mai 1951, 18 janvier 2021. Un documentaire de Johanna Bedeau et Assia Khalid. Le 18 janvier 2021, Jean-Pierre Bacri est mort. Mmh. Il est pleuré par la France entière.
Oui.
Pourquoi chacun se reconnaît-il dans le personnage de Jean-Pierre Bacri? Pourquoi beaucoup ont l'impression de perdre un proche?
Je crois que c'est parce que...
Olivier Doran.
Il n'a jamais incarné de héros, de flic super fort, d'homme politique tout puissant, de choses comme ça. Il a toujours incarné des êtres humains. J'allais dire normaux, après il faut définir le mot normal, mais des êtres humains qui ressemblent à tout un chacun. Même quand il faisait un flic, que ce soit dans Subway, que ce soit dans Un papillon sur l'épaule avec Lino Ventura, c'est toujours, en fait c'est d'abord un homme, avec sa part de faiblesse et de médiocrité qu'on a tous par moment en nous. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on se reconnaissait, je crois, enfin que les gens se reconnaissaient autant en lui. C'est qu'il essayait pas de faire l'acteur américain. Vraiment, il voulait incarner des êtres humains qu'on puisse accepter et considérer comme vrais.
C'est une ancienne collègue, une prof d'histoire.
C'est quoi au juste ta définition du mot « travail » ?
Je l'ai revu par hasard aujourd'hui, quand j'installais les tables. J'ai eu un choc, quoi. J'ai même eu des palpitations.
Et juste une question, est-ce que t'as remarqué sa robe blanche ?
Ouais.
Non, tu vois, Julien, quand je t'entends parler comme ça, je te jure, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, je suis encore assez con pour te tendre la main.
Tu peux pas dire ça.
Pardon ?
C'est redondant au jour d'aujourd'hui, c'est redondant. C'est pas français, c'est un pléonasme. C'est comme si tu disais « à partir de dorénavant ».
Ah bon ? Alors voilà. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je te donne le choix entre deux possibilités. Soit tu vas foutre immédiatement ton costume de laquais et cette putain de perruque sur la tête et tu retournes travailler. Soit tu refous ton pyjama infâme là en éponge et tu vas voir tes chaînes d'infos en boucle dans ta petite maisonnette. Ah, t'as vu ? Encore un deuxième pléonasme, petite maisonnette.
Même quand il fait un chef d'entreprise dans Le goût des autres, c'est un chef d'entreprise, mais avec une moustache un peu bizarre, qui parle très mal anglais, qui habite dans une maison que sa femme a déguisée en bonbonnière. C'est pas le patron de Renault.
Mais quand même, c'est un homme qui est pas scellé dans sa condition, qui est en évolution.
Alors, je crois que c'est aussi ça. C'est-à-dire que les personnages qu'il interprétait et qui avaient une vraie correspondance avec son ambition humaine personnelle, c'était de pas se figer dans un état ou à un stade de son évolution, mais de toujours essayer de faire en sorte de s'améliorer, de réfléchir à soi-même, de voir comment on pouvait être un peu meilleur. Puis un peu meilleur, plus un peu meilleur, plus un peu meilleur, bah, on devient meilleur.
Ve.
The.
Ve.
The.
Ve.
The.
The. Ah. The. The. The.
Yes, very good.
The. The.
Yes.
The.
Okay.
The.
Okay.
The. The.
Okay.
The.
Okay, that's okay. The weather is nice.
The weather is nice. Vous n'avez pas faim, vous?
No, I'm not hungry.
What?
I am not hungry.
Me, I'm angry.
On parle de trouble.
What?
No, nothing.
Nothing. Nothing.
Nothing.
No, nothing.
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 Il était tellement présent dans la ville, dans la vie culturelle, mais là aussi, pas seulement dans la vie culturelle. Dans... Il était toujours citoyen. Son statut de vedette, il s'en foutait, mais complètement. C'était un homme libre. C'est, ça a été tout son combat. C'est passé par la comédie, parce qu'il a été comédien et auteur. Mais c'était avant tout son but dans la vie, la liberté. La liberté.
Sam Kerman.
Ne pas se laisser emmerder par personne, le moins de contraintes possible. Et quand on dit le moins de contraintes possible, on dit aussi le moins de devoirs, d'asservissement, le moins de hiérarchie. C'est toutes ces notions-là qui ont fait de lui cet homme libre qui a été ressenti dans le public.
France Inter, 2003.
La liberté, être au plus près de soi, ça relève aussi de la politique, finalement.
Ah ben un peu, oui.
Je dirais d'abord ma tristesse.
Votre conscience politique, à vous, elle est née quand, Jean-Pierre Bacri?
Elle est née sur la tête de Rocard, après sa défaite aux législatives.
Manifester leur volonté d'un changement profond dans ce pays, vers plus de justice.
En 78, qui disait, ça doit être une fatalité, la gauche ne gagnera jamais.
Rendez-vous manqué par la gauche avec l'histoire.
Et j'étais absolument pas politisé du tout, j'étais canois, donc pas politisé.
Y a-t-il donc une fatalité?
Et j'ai découvert ce mec, je sais pas, alors encore une fois, pareil, c'est une humanité, quelque chose sur sa tronche qui m'a bouleversé, je sais pas pourquoi, je me suis dit...
Non, il n'y a pas de fatalité.
Ce mec est forcément sincère, bon, je sais pas, c'est comme ça que j'y suis venu, c'est anecdotique, hein. c'est pas que je crois en Rocard, mais il se trouve que c'est comme ça que ça m'est venu.
En un pouvoir, qu'y a-t-il manqué? Il y a manqué peut-être un programme plus convaincant. Il y a manqué plus de cohésion dans l'Union.
Quand vous parlez de lui, vous dites que c'était un vrai homme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, on est dans une époque, la grande, à la fois...
Cédric Lapiche.
La grande malice de Macron, c'est d'avoir créé le ni de gauche ni de droite. Je pense qu'il a été élu sur cette idée-là, et on voit bien que quand on est ni de gauche ni de droite, on est profondément de droite. Et donc, voilà, Bacri, c'est l'opposé de ça. Pour lui, il y a des valeurs à appuyer. Quelles sont les valeurs de la gauche? C'est les valeurs collectives. C'est-à-dire que c'est de dire, il vaut mieux privilégier le collectif par rapport à l'individuel. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une idée qu'il a beaucoup soutenue dans tout ce qu'il a écrit. Et pas que au niveau financier, je dirais. Lui, il y a aussi, croire au collectif, c'est croire dans l'entraide, dans la solidarité, et dans le fait qu'il y a quelque chose qui s'échange, et qui n'est pas que de l'argent. Et du coup, je pense que c'est ça les vraies valeurs de la gauche, c'est de dire, il n'y a pas que l'argent, quoi. Il y a aussi des valeurs très universelles sur des sentiments de solidarité, des sentiments psychologiques, dans ce qu'on a fait dans Un air de famille. Il y a vraiment le fait de dire, dès la famille, il y a quelque chose d'une image sociale qui se pose, avec des gens qui sont dominants, des gens qui sont dominés.
Ceux qui regardent la télé, ceux qui passent à la télé.
Voilà, c'est ça, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Et que toutes ces choses-là, en fait, malgré les différences des gens, on peut partager des choses. Et je dirais que les valeurs de gauche, c'est ça, c'est de croire qu'on peut partager des choses.
Moi, je suis pris, moi, dans mon propre ghetto beurre.
Oui, mais vous n'avez pas une attitude de ghetto.
Non.
Vous êtes un citoyen du monde, vous êtes,
ouais.
Vous êtes dans la République, vous êtes un type qui se bat pour...
En tout cas, je me bats pour l'universalité.
Voilà, c'est ça.
France Inter, 2004.
Sauf que
2004.
Ce qui me ramène, malgré moi, au ghetto, c'est l'injustice qu'il subit.
Eh, mais moi, voilà, c'est pour ça que dans ces cas-là, je suis dans le ghetto.
Ouais.
Et pas dans ma communauté.
D'accord.
Le jour où le ghetto ira bien et que ce sera un paradis, enfin, je vous le souhaite.
Ouais.
J'imagine que votre sens de la révolte ne va pas s'arrêter net.
Vous je serez le souhaite, tôt... ouais.
Voilà.
Ouais.
En tout cas, moi, c'est mon cas. Parce que, justement, quand on a la culture de la persécution, comme l'ont les juifs,
ouais.
quand on a cette culture millénaire de la persécution, on doit être extrêmement, extrêmement précautionneux quand il s'agit d'exercer son propre pouvoir. Je trouve. Parce que tout d'un coup, on se trouve en face de gens qui peuvent être les plus faibles. Et en face de gens qui peuvent être les plus faibles, on se dit, comment moi, qui ai cette longue, longue culture de la persécution, comment moi je vais agir vis-à-vis de ce type-là, qui est faible? Et c'est là que je dis, voilà moi le juif que je suis. Donc je pense que vous êtes dans ce ghetto, moi je suis avec vous dans ce ghetto, parce que je connais plein de gens, j'en connais, quoi, en plein, et ils me touchent, ça me touche, le sort qu'on leur fait. Le « je crois que ça va pas être possible ». C'est pas qu'une chanson, c'est toute la vie. La préférence nationale, il a pas à s'en faire, le gros porc qui en parle, qui la préconise. Il a pas à s'en faire, elle existe. Il peut se rendormir, elle existe dans la rue. Elle existe tous les matins, la préférence nationale, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, un arabe ne rentre pas dans une boîte de nuit. Depuis très longtemps, un arabe, quand il arrive pour louer son appartement, lui dit qu'il est déjà loué. Moi, je l'ai vu, moi. Devant mes yeux, je l'ai vu, qu'il était plus libre, l'appartement. Ou un boulot, on préférera un type... Mais elle existe, de fait, la préférence nationale. Donc, je m'occupe des priorités dans ma tête, et les priorités, c'est les opprimés.
Moi, ce que je vous propose comme entrée, je fais des fixations, je sais, devant les portes d'entrée. Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, avec 100 kilos de muscles à la clé. Devant trop de barbaques, c'est vrai, je fais des rejets, mais je peux dire que je maîtrise le sujet. Les portes, je connais, j'en ouvre tous les jours, mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour. Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil à l'entrée des boîtes.
Veuillez entrer, monsieur, votre présence nous flatte.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Devant les boîtes, moi, j'y suis toujours à la merci d'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit...
Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible.
Il arrive comme un militant de base, quasiment.
Faut des si là.
C'est-à-dire que normalement, quand on est une personnalité, qu'on adhère à un mouvement antiraciste comme SOS à l'époque, bon, alors, un peu moins sous ma présidence, mais... En 1985, on est à Paris, on est collégien, on est lycéen, on porte la petite main des SOS Racisme. Voilà, on est avec toutes les stars du monde, le parrain c'est Coluche, Baudos, et toutes ces personnalités. Mais quand moi j'arrive en 1990, on est dans une période probablement où l'association est moins starisée, elle est moins à la mode quelque part. Et c'est très important d'avoir quelqu'un comme Jean-Pierre Bacri qui arrive, non pas comme une personnalité qui va venir rajouter au rang des parrains qui ont besoin, voilà, d'affirmer qu'ils sont des combattants des droits de l'homme, mais lui, il arrive tout simplement, il sonne, il arrive et il dit « je vais prendre ma carte des SOS Racisme ». Et puis après, ce qui m'a moi beaucoup touché, c'est que précisément dans ces périodes-là, où les gens commencent à s'interroger de nouveau, est-ce qu'on peut continuer à vivre ensemble, où on n'a plus peur de dire qu'on vote pour le Front National, il commence à avoir une banalisation de la parole raciste, etc. Et c'est dans ces moments-là qu'on avait besoin d'avoir des personnalités qui puissent venir précisément, parce que c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que je vais avoir cette chance formidable d'avoir comme militant et comme parrain Jean-Pierre Bacri.
Pourquoi il vient prendre sa carte à SOS Racisme? Vous avez une idée?
Alors, ce qui est très marrant, c'est que Jean-Pierre Bacri, on pourrait vivre toute une vie avec lui, être très proche, comme on l'a été à un moment, sans qu'il fasse jamais état de ses origines. Voilà, on ne considérait pas comme quelqu'un qui était d'origine juive. Et d'ailleurs, finalement, c'est tout le sens du combat des SOS, c'est d'arriver un jour à ces droits-là, à la banalité, à ce que, bon, bien sûr, on est noir, on est arabe, on est juif, mais ce qu'on recherche et ce qu'on retrouve chez Jean-Pierre Bacri, c'est, bah, finalement, on va voir Jean-Pierre Bacri au cinéma, on va voir en français. Je pense qu'à la fois, il s'était jamais affirmé du point de vue de son appartenance et de ses origines, mais intégrer comme ça ce combat-là, forcément, ça faisait écho à l'enfant qui était né en Algérie et ses familles qui avaient été déplacées de leur milieu d'origine.
Et alors, qui est arrivé tard, quand même.
Qui est arrivé,
France,
oui,
en
il est arrivé à 11 ans, quand même, bon. D'autre part, c'était aussi quelqu'un qui était quand même assez exigeant. Il venait, on discutait, il disait, mais, Faudet, regarde bien, parce que le Front National intervient sur des thématiques avec une expression qui est assez simple, quoi, finalement, on caricature, il y a de l'immigration, ça crée du chômage, avec des slogans simples qui font que finalement, ou alors tout ça coûte à la sécurité sociale. Et il m'avait poussé, par exemple, dans la réflexion, à créer un petit manifeste, c'était les réponses de fond. Il m'avait même aidé à trouver un slogan dans des congrès des SOS Racisme, qui était la vraie insécurité, c'est le chômage. Donc c'est quelqu'un qui venait aussi quand même avec une réflexion.
La nostalgie... Si j'ai bien compris, bon, ça vous gonfle.
C'est pas mon truc.
C'est pas votre truc.
Non, pas du tout. Même les racines, hein, je vais plus loin. Hein.
Même les racines.
Ah oui, je m'en fous, moi, ouais. Tout ça. Moi, le folklore, je m'en fous complètement. Pour moi, les racines, ça veut rien dire. C'est-à-dire que j'ai vécu dans un endroit, parce que je suis né là, J'aime pas les racines parce que... Enfin, j'aime pas les racines. Je cultive pas ça parce que je sais que si on va un peu plus loin que les racines, après, il y a la fierté des racines. Ouais. Et après la fierté des racines, il y a la bêtise dans toute sa majesté qui apparaît. Ouais. Parce que très très vite, c'est ces racines à soi qu'on préfère et c'est celles-là qui sont les mieux. Donc moi, oui, j'ai vécu parmi les Arabes, j'adore les Arabes. J'ai vécu parmi les pieds noirs, j'adore pas les pieds noirs. Non mais vous voyez ce que je veux dire, bon, ben, oui, mais j'ai pas de, je me dis pas l'Algérie, le sol de l'Algérie là, les senteurs, ouais, les oliviers, ouais, les mandarines, ouais. Là, je m'en fous, enfin, je veux dire, ça me, ouais. C'est anecdotique quoi.
Il s'inscrivait vraiment dans cette humanité, dans cet humanisme même qui est propre à la France. C'est-à-dire que la France a plusieurs visages, mais dans ses visages les plus plaisants, c'est quand même ce pays des droits de l'homme, c'est ce pays qui a accueilli des générations de migrants, des réfugiés, des boat people, en passant par ceux qui arrivaient des zones de conflit, etc. Et on retrouvait ce côté français, humain, profondément attaché aux valeurs des droits de l'homme chez Jean-Pierre Bacri.
Moi, j'aime bien savoir l'enfance.
L'enfance ?
Oui.
France Inter, 1986.
Je suis né en Algérie, à Castiglione,
ouais.
Petite station balnéaire.
Ouais.
Mon père était facteur,
ouais.
Ma maman ne travaillait pas, parce qu'à l'époque en Algérie, un Français qui était facteur gagnait l'argent dans sa vie.
Ouais.
Et puis, lorsque j'avais 10 ans, tous les pieds noirs se sont fait virer d'Algérie, donc ouais. Je faisais partie du lot. On est arrivé à Marignane, et puis ensuite mon père a été muté au Canet, on s'est installé à Cannes, j'ai commencé le lycée.
Vous voulez être professeur?
Ouais, je voulais être prof de français. J'étais un bon élève en français, français-latin.
Oui.
Mais j'ai fait une fac de lettres et puis je me suis aperçu que je m'ennuyais beaucoup. Alors je suis parti, j'ai fait l'armée, je me suis beaucoup ennuyé là-bas aussi.
Vous avez pensé à quoi à ce moment-là, quand vous avez terminé vos études?
Oh ben là, c'était pas brillant. Hein. Jusque-là, je me suis dit, je m'emmerde beaucoup jusqu'à maintenant. Quoi. Puis après, je suis rentré dans une banque avec mon petit bac et mes années de lettres. Je suis rentré dans une banque et ça m'a fait peur, une peur terrible aussi, ça.
Oui.
Se raser le matin, s'écorcher la figure, se mettre un costume, une cravate et aller dire aux gens... Bon, puis un jour j'en ai eu marre en 74 et j'ai eu la chance de rencontrer un ami, qui est toujours mon ami d'ailleurs. Et avec lui on a eu marre un petit peu de cette vie parce que j'habitais Cannes et puis Cannes c'est pas vraiment ce qu'on appelle le pied quand on a envie de se marrer. Quoi. C'est très superficiel, c'est un peu idiot, c'est très bourgeois.
Pourtant ça a l'air d'une ville...
Oh c'est une ville d'imbéciles. C'est une ville d'imbéciles terrible.
C'est drôle parce qu'hier, j'avais un invité qui a dit que Nice était une épouvante.
Ah non, mais la côte d'Azur, mais la côte d'Azur,
la côte
façon,
en
ah
prend
non,
un sacré coup.
D'Azur, oui, non, mais la côte d'Azur, c'est, il faut dire qu'ils sont pas vernis, quoi. Ils sont pas gâtés, quoi.
Et pourtant, ça fait rêver la côte d'Azur dans le monde entier.
Oui, mais ça prouve que finalement, la nature fait bien les choses, quoi. Voilà, ouais. Les gens qui sont sur la côte, c'est la plupart des idiots, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une mentalité très très dure. Vous savez que Le Pen a fait beaucoup d'argent là-bas. Enfin, a fait beaucoup de pourcentage là-bas.
Oui.
C'est pas une région très très intéressante de ce côté-là.
Alors c'était très dur pour vous de vivre là-bas.
Ouais, très très dur. Alors je suis parti en 74 avec une valise et 2000 francs.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on monte à Paris comme ça?
Ah ben, quand on monte à Paris, on se dit que finalement c'est pas idiot de fréquenter plein de filles en été parce qu'il y en a plein qui habitent Paris et qui nous donnent des numéros de téléphone. Alors ce qui fait qu'on est bien content de pouvoir coucher quelque part au début, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai parce que ça vraiment.
Comme quoi ça sert
à quelque
chose. Hein,
ça sert toujours à quelque chose les plages.
Jean-Pierre Bacri, je l'ai rencontré.
Grégoire Ostermann.
En janvier 1975, moi j'étais déjà là depuis 2-3 mois au cours Simon. Lui, il arrive avec. Il a suivi une fille.
Puis ensuite, il y avait une de ses amies que je voulais revoir qui me dit non, ce soir, je peux pas te voir parce que je vais au cours.
Oui.
De théâtre.
Alors, je lui dis cours de quoi à 8h du soir? Ça me paraissait un peu.
Oui. Ça faisait pas très province à 8h du soir.
Ah non, là, tout d'un coup, voilà une chose qui me bluffait. Alors, elle me dit non, je vais au cours de dramatique.
Oui.
Et dans ma tête, je revois immédiatement entrer des artistes qui m'avaient tellement plu avec Jouvet. C'est un de mes acteurs préférés. Alors là, j'ai voulu voir vraiment, quoi. Je suis rentré dans ce truc avec elle. Et j'ai vu ces types qui passaient des scènes devant un auditoire d'élèves comme ça, très très attentifs, avec une prof qui discutait de chaque phrase, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique.
Oui.
Enfin voilà, là j'étais content, quoi. Tout d'un coup, je me suis dit, ça c'est vivre. Alors ça, qu'est-ce que c'est bien, cette espèce de tension, puis à la fois, c'est une magie, quoi, hein, la magie des textes, comme ça, c'est beau comme tout. Et à la fin, bon, la prof qui était la secrétaire de Simon, une espèce de vieille attardée qui essayait de maintenir le prestige du cours en piquant de l'argent à tous les jeunes crédules, quoi. Rosine Marga, encore une fameuse. Enfin, bon. Donc, elle a demandé à la fin du cours, est-ce qu'il y a des nouveaux? Et j'ai levé le doigt. Et je suis rentré dans ce cours.
Et puis, voilà, il commence à travailler. Il fait une petite année où il passe des scènes. Il a un accent pied noir à couper au couteau. Et ça, par contre, il prend conscience très vite que Il va falloir qu'il travaille ça. Parce que parfois, il n'a pas envie de faire rire, il fait rire quand même. Alors là, il se dit, non, moi, je veux bien faire rire quand j'ai envie de faire rire. Puis quand j'ai plus envie de faire rire, je veux que ça s'arrête. Et il se rend compte que, avec l'accent pied noir, tout le temps, hein, il fait rire. Bon. Et donc, il va contrôler ça. Je me souviens qu'il me disait, il y arrive très vite. Hein. Je me souviens que le début du cardinal Cibo dans Renzaccio, le début des répétitions, entre le début des répétitions et la fin des représentations, il avait déjà. Je me souviens, Jean-Pierre, tu disais fais gaffe, parce que ça revient. Oui, d'accord. Voilà, ça, il a travaillé.
Vous vous souvenez, vous, Sam Carman, quand vous le rencontrez la première fois ?
En 76. Moi, je claque la rue Blanche et je vais voir Jean-Pierre Bouvier, qui est un jeune metteur en scène qui sort du conservatoire, qui monte une compagnie et qui prend en tournée un spectacle, Lorenzaccio. Et il m'engage dans Lorenzaccio pour jouer Salviati et il fait des auditions au Cours Simon et il tombe sur ce Jean-Pierre Bacri et il le prend pour le cardinal Cibo. Et nous voilà partis en septembre 76 sur les routes de France. Je dois ajouter un personnage qui à cette époque a été très important qui s'appelle Gérard Darmon. Moi je découvre Gérard, je découvre Jean-Pierre, je découvre tout, on est une trentaine, et on prend ce bus qui va nous faire pendant, jusqu'au mois de décembre, fin décembre, je ne sais pas combien de villes, et on est tous dans ce bus où on peut dormir, on peut manger, c'est un lieu de vie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'hôtel, évidemment, bien sûr, mais bon, enfin bon. C'est 3 mois dans ma vie où je pense que je n'ai pleinement jamais autant ri de ma vie. Mais ri, à se saouler de rire, car le duo Darmon-Bacri dans ce car, ça restera unique. Autant Jean-Pierre, il a trouvé la nièce dans l'écriture, autant dans ces années-là, la rencontre avec Darmon a été étincelante de déconnades, de rigolades. Ils étaient incroyablement drôles. Voilà. Ça, il faut le dire parce que on a toujours l'image de Jean-Pierre qui est bougon. Non, mais c'est un mec, d'abord et avant tout, extrêmement drôle. Mais il se réservait. Il se réservait aux gens qu'il aimait, dans son cercle.
C'est rire, hein. D'abord, c'est rire ensemble. C'est ça qui a fondé la relation qu'on a eue. Hein. C'est de rire des mêmes choses. Il était très partageur sur le rire. C'est-à-dire, il était à l'affût de. Quelqu'un qui dise quelque chose de drôle. Il donnait de l'humour aux gens, en quelque sorte. C'est pas quelqu'un qui fait des blagues et qui ne rit que de ses blagues. Il avait cette énorme générosité-là d'inventer l'humour des gens.
Inventer l'humour des gens ?
Oui.
Aller le chercher ?
Oui. Ah, c'est très rare. Très, très rare. Et les gens très drôles, ils sont accaparants. Hein. Ils ne supportent pas la concurrence, tout ça. Alors que c'est le contraire avec Jean-Pierre. Le contraire. C'est mon temps ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un vous a dit, comme dans les taxis, c'était très très drôle. Mais il baragouinait un mot, des phrases incompréhensibles, avec juste quelques mots comme ça qui peuvent être un repère pour le taxi. Le taxi qui pensait répondre à une phrase qui n'avait pas existé du tout, en fait. Mais c'était très 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 drôle. Ou bien au cinéma. On rentre dans la salle de cinéma et on se met plutôt à l'avant et il fait exprès de se casser la figure entre deux rangées, mais d'une manière désopinante. Et au lieu de que les gens fassent « Oh, mon Dieu !» les gens riaient de la façon dont ils tombaient.
Désolé d'être en retard, je suis jamais en retard. J'avais pas eu ce connard, là. Vous êtes déjà tous là ? Eh ouais, bien sûr. Bon, moi, c'est Alain Epstein.
Vine.
Ah, Vine.
Jacques Labert.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Monsieur ?
Hubert Barnotti.
Ah, c'est vous l'annonce. C'est à vous que je téléphonais, alors.
Exactement, oui.
Bon, je suis navré pour le retard, mais c'est vraiment pas ma faute, hein.
Ah, des ennuis.
Enfin, je vous jure, il y a des imbéciles, j'arrive. Je me gare juste en bas, là. J'ouvre ma portière. Côté circulation, bon, ça va, c'est une bêtise, d'accord, mais tout de même. J'ouvre ma portière, PAM ! Une voiture qui me la bousille complètement.
Vous bousille quoi ?
La portière, je l'ai ouverte comme ça. Et avant que je sorte, une espèce de 404 bourré de... je sais pas quoi, qui me l'a arraché complètement. Fou, j'étais fou, je les aurais tués. Ils sont même pas arrêtés. Belle société, non? Civilisés, ces gens, hein?
Des Arabes, avez-vous dit?
Je sais pas, j'ai pas vu. Et ce serait étonnant que ce soit des Arabes?
Je ne sais pas. Ce serait étonnant.
Non, ce serait pas étonnant, non. Parce que comme sauvage, enfin, moi je suis pas objectif, je viens d'Algérie. Je sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, alors les Arabes, entre autres...
France Culture, 1979.
Sarlat a précisément donné sa chance à un jeune auteur cette année, Jean-Pierre Bacri, qui a écrit trois pièces, et la première d'entre elles, tout simplement, qui a été créée cet hiver au Café Théâtre Le Plateau, était reprise pour un soir, montée et interprétée par Jean-Pierre Bouvier. Alors Jean-Pierre Bacri, vous écrivez une pièce qui démarre comme une comédie et qui bien vite tourne à quelque chose de plus inquiétant. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire de cette manière ?
Ce qui me motive pour écrire de cette manière, parce qu'en fait les trois pièces que j'ai écrites se rejoignent dans le style. C'est-à-dire qu'elles sont empreintes, enfin en tout cas j'essaie de les imprégner de dérision. C'est-à-dire que en fait je pense que c'est la caractéristique de la société actuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dérision et beaucoup de désespoir. Et comme je ne conçois pas le désespoir sans humour et sans dérision, ben voilà, j'écris des pièces comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis très très influencé par le théâtre britannique et américain, enfin en particulier Pinter, que j'aime beaucoup.
Oui, mais avec quand même un ton qui n'est pas tout à fait celui des auteurs britanniques, justement, parce que votre dérapage dans le tragique, il est peut-être plus, je ne sais pas si on peut dire plus français, mais il a quelque chose qui s'éloigne des auteurs britanniques.
Plus latin, parce que je suis latin.
Voilà.
Je suis un petit garçon d'Afrique du Nord, alors évidemment j'ai peut-être cette hérédité latine.
Et puis assez vite, lui, il va quand même, il va commencer à tourner très vite, parce qu'il a un beau physique, hein, le garçon, il est jeune premier là, à l'époque. Et donc il commence à faire des tournages un peu ceci, cela, et puis assez vite, il tourne avec des films importants, le Toubib, avec Delon, La Septième Cible, avec Ventura, et là... À partir de Ventura, à partir de La Septième Cible, Ventura, qui, quand il fait de la promo, il dit... Et puis, alors, il y a un jeune acteur, je peux vous le dire, là, attention, vous allez entendre parler de lui, il s'appelle Bacri. Et là, ça, c'est la meilleure des promos. Tout d'un coup, quand Lino Ventura fait de la pub d'un acteur, c'est vrai qu'il est formidable. Et donc, voilà. Puis, Le Grand Pardon, le machin, enfin, bon, après, il y a tous les films, voilà, qui vont être importants, qui vont très très vite faire de lui un acteur de cinéma, quoi. Et puis à partir de 80, il est lancé, quoi.
Voilà. Je me suis fait rouler.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est à l'autre chemise américaine. Elle ne me reste qu'une manche. Je me suis aperçu une fois que j'avais payé. Je pouvais pas deviner. Évidemment, c'est fait en série maintenant. Les machines.
C'est pas possible.
Oh, ça arrive, hein.
Quand c'est pas des chewing-gum immangeables, c'est des tableaux volés. Quand c'est pas des tableaux volés, c'est des chemises sans manches.
C'est pas des chemises sans manches. C'est pas des chemises sans manches. C'est des chemises à une manche. On ne dit pas n'importe quoi, hein.
Mais qu'est-ce que tu voulais en faire ? À qui tu voulais les vendre ?
Ça doit pas être bien sorcier d'en faire des chemises à manches courtes.
Vous voyez, vous, Grégoire Starmann, vous voyez à un moment donné un changement particulier dans son jeu ? Un film où vous regardez, vous vous dites, tiens, ça
oui,
y est,
comment il s'appelle ce film ? Je lui avais envoyé un petit mot d'ailleurs. Je lui ai dit, tiens, ça y est, c'est lui maintenant. C'est coup de foudre, hein. Diane Curis. Où là, je me suis dit, bon sang de bois, ça y est. Il laisse le désarroi possible aussi dans son jeu. Et ça, c'était surprenant parce que je ne pensais pas qu'il allait se libérer d'un volontarisme dans le jeu. Et là, d'un seul coup, se laisser faire, comme ça, par l'image, il avait théorisé ou décidé que, et ce jour-là, je me suis dit, ben voilà, allez, c'est parti.
Ça va comme tu veux ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Moi ?
Rien. Peut-être trouver du boulot. Justement, en attendant ma première paye, tu peux m'avancer un peu de pognon ?
Quel genre de boulot ?
Manutentionnaire.
Quoi ?
Manutentionnaire.
Dis donc, c'est pas une idée de toi, ça ? Ça y est, tu baises avec Charlotte ?
Oui. Ça va te foutre. Non, mais écoutez-le.
Baise, mon vieux, baise-la.
Il rigole.
Man play, j'ai pas envie de rigoler. Hein.
Pauvre type. Elle a pas mis longtemps à te piéger, celle-là. Hein.
C'est sans doute la personne que j'ai connue dans ma vie qui a fait le plus grand voyage de personnalité. Il est arrivé à Bleur, de sa Côte d'Azur, là, comme ça, avec ses petites chemises, machin, sa chaîne en or, à draguer les filles, et à se croire le roi du monde. Il était d'une... pas misogyne, mais il était d'un machisme idiot absolu, je veux dire, quand il arrive de Cannes. Et avec Agnès, il va, mais totalement découvrir que, voilà, le féminin. Non seulement la féminité avec Agnès, l'intelligence, l'intérêt, la passion, l'amour, tout ça, mais aussi, lui, sa féminité, l'accepter. L'accepter, c'est une chose inacceptable avant, je veux dire. Il a totalement changé son attitude, son rapport aux gens. Il pouvait être insupportable. Insupportable de conneries masculinistes. Quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas comment le dire avant Agnès. C'est une rencontre essentielle dans sa vie, Agnès. Non seulement en tant qu'elle, mais pour tout ce que ça projette et tout son regard qu'il projette ensuite sur les femmes et sur le monde en général. Sur le monde en général. Et aussi de accepter la pensée différente. Même si ses convictions étaient très fortes et que, mais au moins ça passait par le débat, quoi.
Là, effectivement, je rencontre Jean-Pierre. Je vois un homme tellement libre, tellement libre. Je sais pas comment dire. Tellement à part qu'on tombe amoureux et que dans la semaine j'emménage chez lui. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait très vite. J'avais 22 ans. Je me rappelle juste que j'ai dit à mon père que j'avais rencontré quelqu'un, que j'étais très amoureuse, mais qu'il était vieux. Il m'a dit, ah, mais il a quel âge? J'ai dit 35 ou 36, je sais plus. Je me rappelle de mon père explosant de rire.
Agnès Jaoui, France Culture, 2022.
Il avait écrit deux pièces avant, Le grain de sable et Tout simplement, et je trouve qu'elles ont déjà énormément de qualité et qu'il a toujours une plume, un sens du dialogue, un sens du rythme, un sens des mots très juste. Après, je pense, c'était assez complémentaire parce que d'abord parce qu'on avait des énervements, des colères communes. On se retrouvait beaucoup sur nos indignations. Et ensuite, parce que moi, j'ai un goût pour les histoires et pour justement tous les parcours psychologiques des gens, les vies dans lesquelles s'enferment les gens, les destins, les répétitions, l'atavisme. Enfin, tout ça sont des sujets qui me passionnaient peut-être un peu plus que Jean-Pierre à ce moment-là. Enfin, en tout cas, Un air de famille, on l'a écrit très inspiré de sa famille, quoi. Et du rôle, lui, qu'avait. C'était le garçon et c'était l'homme le plus célébré, le plus adoré par sa mère, quoi qu'il fasse, quoi. Et donc là-dessus, je pense que on s'est apporté l'un à l'autre. Bref, il y a une alchimie qui s'est faite, qui est difficile à décrire, mais qui s'est faite, ça c'est sûr.
J'ai pas de considération, moi.
C'est-à-dire?
Et je sais pas. La considération, je comprends même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Si tu comprends, toi.
Je sais pas.
Ah.
Que vous la traitez mal, non?
Moi? Je la traite mal?
C'est ce qu'elle dit.
Je la traite très bien. Traite mal, hein. De toute façon, on se voit jamais. Je voudrais la traiter mal, j'aurais pas le temps. Je me réveille 5 heures du matin. Je travaille toute la journée, je mange, je dors, voilà, c'est tout ce que je...
Je suis dégoûté.
Elle va revenir.
Ouais, ouais.
Ah, le temps de s'en mettre les idées en place, quoi.
Ça fait du bien de réfléchir.
Non, ça fait pas du bien de réfléchir.
Oh, patron, vous pouvez pas dire ça. La réflexion, patron. Remettre les choses en place, faire le tri, peser le pour et le contre.
Ouais, j'appelle ça enculer les mouches, moi.
Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous.
Ben ouais. Ouais, si tu te mets à penser à tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Alors, on s'en sort plus. Et y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content. Ça va pas, tu patientes. C'est comme ça, la vie. Et elle me connaît. Elle sait comment je suis. Bon, pas changer maintenant.
Mais pourquoi pas?
Ouais, parce qu'on est comme on est, on change pas, et c'est tout.
Mais non, je suis pas d'accord. Si on décide...
Non, on change pas, je te dis.
Vous voulez pas savoir ce que j'en pense?
Eh non.
Comment vous faites sa rencontre, Cédric Clapiche? Vous les connaissiez avant?
Non, je les connaissais pas. C'est vraiment grâce à Jean-Pierre Daroussin, qui joue dans Rien du tout, dans mon premier long métrage. Quand ils ont fait Un air de famille et qu'ils jouaient la pièce, Jean-Pierre m'a dit « on aimerait bien que tu viennes ». Et du coup, je les ai rencontrés à la suite de la pièce de théâtre. On a été dîner ensemble et directement pendant le dîner, ils m'ont dit « on aimerait bien te proposer de réaliser l'adaptation au cinéma ». Et je leur ai dit « donnez-moi 2 jours pour réfléchir » et 2 jours après, je leur ai dit « oui ». Quoi.
Pourquoi vous leur dites « oui » ?
J'étais très très fan de Bacri. Donc déjà, rien que parce qu'il y avait Bacri, j'avais envie de dire « oui ». Et puis je venais de voir la pièce, donc moi je sortais de la pièce et donc j'avais adoré.
Quand vous dites j'étais complètement fan de Bacri, vous étiez fan de quoi?
De l'acteur.
De l'acteur.
Je voyais bien qu'à chaque
travail.
Fois qu'il était dans un film, j'adorais ce qu'il faisait, quoi. Et c'était vraiment sur son humour, parce que comme beaucoup de gens qui sont drôles, il est très sérieux quand il joue. On connaît cette chose-là de Buster Keaton ou même de Chaplin d'ailleurs. C'est des gens qui sont extrêmement sérieux. Donc voilà, tous ces gens-là qui ont inventé, je dirais, la comédie, ils ont inventé le sérieux de la comédie. Et je trouve que Bacri, il a cette filiation-là où il nous fait rire avec des choses qui sont importantes, en fait. Donc Jean-Pierre et Agnès, ils avaient cette qualité de mettre en scène des opinions, des idées, et de les organiser suffisamment pour que ça crée... du comique, un récit, parce que, enfin, pour moi, ils ont vraiment un peu révolutionné le scénario en France. Ce qui était très troublant quand on, je fais des grosses digressions, mais quand on a essayé de faire la bande-annonce de Un air de famille, on voyait, alors que on n'arrête pas de rire dans le film, en fait, on peut pas enlever des bouts. En fait, c'est que un espèce de flux continu qui fait que si vous montrez que un seul bout, il est pas drôle, en fait. Et c'est que parce que c'est préparé, que c'est complètement. Je crois que c'est Bacri qui avait dit il faut tendre l'élastique. Cette expression elle m'est restée parce que écrire un scénario, c'est beaucoup tendre l'élastique, en fait. Il y a une espèce de puissance, comme une espèce de moteur diesel qui plus il chauffe et plus il s'emballe. Et je pense qu'au niveau narratif, au niveau vraiment dramaturgique, ils avaient compris ça, et Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, que c'est pas des choses ponctuelles qui marchent, c'est des choses réfléchies qui s'additionnent, qui s'amoncellent, et qui finissent par créer quelque chose de très entier, parce qu'il y a un côté sédimentaire, il y a des espèces de couches successives qui fabriquent quelque chose de plus profond, quoi.
Oh, encore une laisse.
Eh non, c'est un collier, chérie.
Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien.
Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi.
Merci, mon chéri, merci, je...
C'est un collier pour femme.
Je vais le mettre tout de suite.
Tu vois?
Il me va bien.
Oh, très bien. Tu veux pas essayer d'aboyer pour voir?
Non, mais qu'elle est bête. Non, mais il est très beau. C'est magnifique. C'est très distingué.
Oui.
Bon
oui.
Anniversaire, ma chérie.
Oh, mais qu'il est gentil.
Vous avez de la chance, vous savez, c'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné.
Bah, il faut avoir de l'argent, c'est tout.
Tout ce qu'il était, son humour, son engagement politique, sa façon d'exercer le métier d'acteur, sa façon d'exercer le métier de scénariste, était tourné vers ce côté insurrectionnel où il était à fleur de peau, disons, et donc il réagissait aux choses, et donc il réagissait aux choses dans la société, les choses qui le révoltaient, les choses qui le faisaient bondir.
Il aimait débattre.
Oui, il aimait débattre, en fait. Oui, c'est vraiment ça qui est très sensible dans tout ce qu'il a écrit, dans tout ce qu'il fait en jouant. Il aime créer du débat, du dialogue, parce que l'essence de la dramaturgie, l'essence du théâtre, c'est cette notion de dialogue. C'est que créer des dialogues, c'est créer le fait qu'il y a un conflit entre deux personnes et aller assez loin dans l'exposition de ce conflit. Et très souvent, un bon dialogue n'est pas un face-à-face de deux opinions, mais un face-à-face de plusieurs opinions. Et donc, lui, il aimait ça. Il aimait mettre en scène cette complexité-là.
Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quel est mon erreur que je sois perdu, l'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts.
Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimée. Vous verrez que Titus n'a pu s'en expirer.
Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'honneur d'Hyménée. Rome, à ne plus vous voir, m'a-t-elle condamnée? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Est-ce qu'il y avait plus d'épingles dans mes cheveux que de spectateurs dans la salle?
Mais non, il y avait du monde, c'était très bien. Tu veux que je t'enroule un petit?
Oui, je sais. Oui, entrez.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur. Vous vous souvenez de moi?
Oui, enfin, je vous connais, mais...
Le cours d'anglais.
Ah oui, la méthode marrante, c'est ça.
Hein? Il y a ma nièce qui joue dans la pièce, bon, elle n'est pas terrible.
C'est qui?
Virginie Giraud, bon, c'est ma nièce.
Mais pourquoi vous dites qu'elle n'est pas terrible? Elle est très bien, Virginie.
Oh, ben, elle est quand même un peu...
Elle est très bien.
Enfin, en tout cas, là, moi, je j'aime pas du tout le théâtre.
Je sais pas si tu pourrais, j'arrête pas de pleurer, c'est con, mais oh, c'était bien ce soir, t'étais bien. Je t'ai dit, j'ai regardé tous les deux, c'était vraiment... Pff, c'est chiant, ces dernières.
Oui, moi, j'aime pas du tout le théâtre.
Il fallait pas venir, hein.
Ah, mais non, mais là, okay. justement, là, on n'aurait pas dit du théâtre. Vous jouez tellement...
C'était sublime, mais absolument sublime. Ah non, ce soir, je te jure, c'était mais magnifique, oh là là. Magnifique.
Ah oui, oui. Vous êtes vraiment... impeccable.
Merci, c'est gentil. Excusez-moi, il faut que je me change, là, maintenant.
Ah, pardon.
Comment ils viennent vous proposer de travailler avec eux sur le goût des autres?
Vous vous en souvenez?
Oui, bah, très bien. Je jouais à ce moment-là à l'Odéon. Je faisais partie de la troupe...
Anne Alvaro.
...de Georges Lavaudant. Je jouais Tambour dans la nuit. Et ils sont venus dans ma loge. Bon, ils m'ont témoigné du plaisir de la représentation. Et à la fin, Jean-Pierre m'a dit « On est en train d'écrire un scénario, est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, j'ai dit oui, un peu par politesse, n'y croyant pas une seconde, quoi. J'ai reçu le scénario quelques jours après, et je l'ai lu, évidemment, j'étais folle de joie, hein. L'anglais, la Bérénice, la tragédienne, puis pour le rôle, et puis la partition était absolument magnifique, quoi. Par la suite, je me souviens que Jean-Pierre m'avait dit, dis donc, t'avais pas l'air très enthousiaste quand on t'a proposé de travailler avec nous. Oui, je devais pas témoigner d'un grand intérêt, parce que vraiment, ça me paraissait... Puis j'étais un peu impressionnée par eux, parce que j'avais vu, quelques temps avant, j'avais vu Un air de famille... Mais pour moi, c'était un autre monde, quoi. Je pense que Jean-Pierre avait vu Roméo, le Roméo et Juliette, pour moi, historique, qu'avait monté Denis Lorca, qui était joué que par des femmes. Et comme il m'en avait parlé à ce moment-là, voilà, pour moi, c'était ciblé comme ça. Ils avaient vu Roméo, voilà. Donc, j'étais en confiance. On avait fait des essais, mais à plusieurs, pour un petit peu se familiariser avec la bande de théâtreux qui daignent recevoir dans leur petite équipe ce Bob Castella que jouait Jean-Pierre pour essayer de travailler un peu sur une ambiance de complicité. Voilà. Donc, j'étais pas intimidée par ça. Là où j'étais intimidée... J'étais pas intimidée, non, je peux pas dire comme ça, mais j'appréhendais les scènes avec Jean-Pierre en me disant, pourvu que j'ai pas le fou rire. Oui, comme c'était quelqu'un qui me faisait rire, je me disais, il va me faire rire sur le plateau. Pas du tout, pas du tout.
Can I have some champagne?
Qu'est-ce que vous faites là?
It's your friend Antoine. Il m'avait dit de venir.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
C'est du vin.
Thank you. Et derrière, c'est un incredible...
En français.
Il y a un monde incroyable. Mais il est connu comme peintre.
Ah, monsieur Castella.
Ah, bonjour.
Alors, ça vous plaît?
J'ai pas encore regardé, mais il y a plein de monde. Hein. Je savais pas qu'il y avait autant de gens, moi, dans cette ville. Vous êtes content, hein? Mm. T'es pas content?
Si, mais il boude, parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui sont pas venus.
Ah bon? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas? C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable.
Des gros PD, c'est-à-dire?
Des PD, quoi.
Je veux dire des gens qui s'enculent. Comme mon ami et moi, par exemple.
Qu'est-ce que vous aimez chez ce comédien?
Tout. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que Jean-Pierre, quand il prend en charge un texte, il a une telle...
Michel Leclerc.
Une gourmandise du jeu, ce qui fait qu'il il rend le moindre dialogue drôle. Il a une sincérité totale. Et évidemment, j'étais très angoissé, enfin un peu fébrile, avant de le rencontrer et de commencer à travailler avec lui. Et je dois dire que ça a été d'une facilité comme je l'ai rarement rencontré sur un plateau. J'ai rarement vu un comédien aussi respectueux du texte, aussi prêt aussi à aller ailleurs, à essayer des trucs.
Vous vous souvenez où vous étiez, vous, le jour où Jean Poprenne est mort? Jean Poprenne. Moi, je me souviens. Parce que c'est exactement le jour où j'ai rencontré Caroline. Et alors, avec des collègues, là, on allait le midi chez Léon de Bruxelles. C'est parce que ça, bon, on aimait bien. Et entre parenthèses, Léon de Bruxelles, c'est pas que des moules. Parce que les gens, c'est toujours, ah, les moules. Mais non, il n'y a pas que des moules. La carte est très variée. Il y a des salades, il y a des frites, bien sûr. Enfin, bref, les collègues s'installent à une table, je m'installe à une autre. Et ils demandent à Caroline de les rejoindre. Et non, elle vient s'installer à ma table. Je crois que c'est un des moments préférés de ma vie. Elle était très belle. Elle avait une voix... On était comme un petit bonbon acidulé. C'était mignonne. Parce que moi, je suis très sensible aux voix.
Un jour...
Ah, mademoiselle, on voudrait deux coupes de champagne. Parce que comme c'est gratuit en prébium, on va prendre deux coupes.
Il n'a pas l'air très bien, votre ami.
Comment se passe le tournage, Michel Leclerc?
Monsieur.
Mais non.
Monsieur.
Alors, aucune scène ne lui pose problème. Il se lance complètement dedans.
En fait, il a l'air mort.
Mais non, mais pas du tout.
Les gros plans, parce qu'il était tout le temps en gros plan dans le film, et puisque il passe la moitié du film à conduire.
Ouais, c'est en rapport avec ce que je racontais.
Donc, évidemment, la caméra était sur sa gueule en permanence.
Ouais, parce que ça existe, hein, être ennuyeux à mourir. Hein. Et oui, mais ça vient pas de nulle part.
Et je sais très bien qu'il n'aimait pas sa gueule. Et plus ça allait, et je pense, à mesure qu'il vieillissait, il ne supportait plus de se voir. Je pense qu'il n'a jamais supporté de se voir, mais alors, je pense, dans les dernières années, il ne supportait plus du tout de se voir. Bon. Et il acceptait, je me souviens très bien, par exemple, que à un moment donné, dans le film, il commence vraiment à perdre les pédales, il parle à son GPS, il tombe amoureux de son GPS, et puis, à un moment donné, je lui dis, mais j'aimerais bien, là, que tu te mettes à chanter, que tu te mettes à délirer tout seul. Et voilà, il s'est inventé une espèce de chanson de marin un peu improbable où on comprend la moitié des mots ou tout ça, que c'est vraiment lui, ça, qui a vraiment improvisé autour de ça.
Ça, c'est IP009. C'est le produit leader. C'est vraiment une révolution dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire. Le manche, il est 100% bois de noisetier. La brosse en poil de sanglier.
Ouais, mais monsieur, moi je suis une station-service, je suis pas une pharmacie.
Et alors?
Bah, et alors, je vends pas des brosses à dents ici.
Mais vous avez tort, tout le monde a des dents. Les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents?
Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas.
Bah, je suis désolé, mais je vous êtes pas moderne. Je suis désolé, madame. L'avenir, c'est aux enseignes multidisciplinaires. C'est pas le paf de l'huile, des éponges, des chips. Voilà, et puis qu'est-ce que je vois? De l'alcool? Vous vendez de l'alcool dans une station-service? Hein? Parce que de l'hygiène bucco-dentaire, ça, on s'en fout, on s'en branle. Mais en revanche, se bourrer la gueule au volant, ça, là, c'est bon. Là, ça va.
Oh, qu'est-ce qui se passe?
qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Je voudrais deux bouteilles de whisky.
Bah donne-lui, j'ai deux bouteilles de whisky.
Voilà. Bon, alors, vous prenez la carte?
Vous riez vous-même en vous voyant, c'est très drôle.
Je ris pour deux raisons. D'abord, parce que ça peut être drôle, effectivement, mais surtout...
France 3,
parce qu'on choisit
2015.
La seule scène où je gueule, quoi, où je râle. Et c'est marrant, quand même, cette manie de
vous montrer,
d'étiqueter les gens et de sortir l'affiche râleur.
Au contraire,
et de dire,
moi, je pensais que vous
qu'est-ce
seriez...
qu'on pourrait prendre comme scène? On va prendre la scène où il râle.
Et alors, Monsieur Sim, c'est pas vraiment un personnage qui râle?
Non, pas du tout. C'est même exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a à cœur d'être gentil avec les autres, d'être serviable.
Ce qui est quand même très intéressant, Michel Leclerc, pour Jean-Pierre Bacri.
Ah ben, je suis même assez persuadé que c'est une des raisons pour lesquelles il a eu envie de faire ce film. Parce que pour le coup, c'est un personnage très différent et de ce qu'il avait déjà joué, même s'il n'a pas joué que des râleurs, bien entendu, mais en tout cas très différent de l'image qu'on lui a toujours attribuée, ça c'est sûr. Mais enfin, il était assez ambigu par rapport à ça, parce qu'effectivement, je me souviens très bien qu'il disait tout le temps qu'il en avait marre, dans chaque article qu'on lui dise qu'il était râleur, je l'ai vu râler un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose chez lui d'épidermique qui fait que une petite étincelle pouvait provoquer de la colère chez lui. Ça, c'est évident. Donc, il pouvait pas complètement nier qu'il y avait ça chez lui.
Alors que pendant tout le temps, ce mec...
C'est vrai.
Ce mec est candide.
À fleur de peau.
Nature, en train d'essayer de parler aux gens gentiment, toujours souriant, etc. Et on montre du espèce de caricature de l'image que les gens se font.
Eh ben c'est pas ce que j'allais dire. Moi, j'allais vous dire que l'image qu'on a de vous,
c'est tellement l'habitude.
C'est vrai. On vous a trouvé. Je trouve que c'était une facette joyeuse du personnage.
Non, c'est bien.
Qui était en général, on vous dit, vous incarnez des personnages bourrus, des personnages
voilà.
Un peu tristes.
Donc,
et là, vous êtes extrêmement drôle et avez un jeu d'acteur absolument merveilleux.
On fait la tournée promotionnelle du film et donc comme à chaque fois pendant les tournées promotionnelles, on est accueilli par l'exploitant et puis pendant que le film passe, on est invité au restaurant, etc. Et donc ce soir-là, l'exploitant est un peu un vieux de la vieille qui a déjà reçu Jean-Pierre plusieurs fois et je sens tout de suite que Jean-Pierre ne l'aime pas beaucoup, cet exploitant. Et il fait preuve comme ça d'une assez grande familiarité et d'onctuosité à l'égard de Jean-Pierre en faisant un peu des caisses et tout ça. Enfin bref, il nous invite au restaurant et on s'assoit à table et il y a une jeune femme qui vient et qui est la sommelière et qui dit « Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et Jean-Pierre dit à cette jeune femme « Mais allez-y, choisissez. » Et l'exploitant dit à cette jeune femme, sur le ton de la blague, « Vous avez intérêt à bien choisir, parce qu'il s'y connaît bien en vin, et si vous tombez à côté, vous allez être viré. » Mais je vois Jean-Pierre, ça le rend dingue, il se lève, il se barre.
Il se barre du dîner ?
Oui. Parce que c'est ce qu'il déteste le plus, c'est-à-dire d'utiliser son nom pour rabaisser quelqu'un d'un rang social moins... Elle était serveuse, elle n'était pas sommelière d'ailleurs, c'était une jeune intimidée, et ça, il déteste.
On est 4-5 à avoir reçu un texto en disant, voilà, j'ai une connerie qui aurait dû se régler, puis qui ne se règle pas, donc je vais rentrer tranquillement chez moi pour en finir. Je vous fais signe dès que je suis rentré. Il nous a reçus, chacun.
Il m'a dit le samedi, deux jours avant, viens prendre un café. Et il m'a fait sa dernière blague. C'est-à-dire qu'il a ouvert la porte. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Et il le jouait tellement bien qu'à chaque fois, vous vous disiez, c'est moi qui ai rêvé ou... Bah non, il m'a bien dit de passer. Et ça l'éclatait de voir la tête que vous faisiez quand il faisait une blague qui marchait, qui réussissait, ou vous faisiez choper, comme il disait.
Et il m'a dit au revoir. En me disant, tu te rends compte, cette vie extraordinaire, magnifique que j'ai eue. Alors c'est pour ça, il ne voulait pas d'acharnement. Il a dit, je vais demander du rab. Quoi, je vais demander du rab? Certainement pas.
Je vois cette dernière représentation des femmes savantes, où ils étaient, mais tous les deux, Agnès dans Philamat, c'était une merveille absolue. Et Jean-Pierre dans Béral, extraordinaire. Donc j'étais absolument bouleversée par heureuse, bouleversée et on se retrouve. Il y a un petit balcon, on est allé fumer une cigarette avec Jean-Pierre. Je lui dis, bah oui, mais tu vois, Molière, c'est papa, quoi. Et je crois que c'est sorti spontanément, c'est vraiment ce que je pense. Molière, c'est papa, et Shakespeare, ce serait Dieu, alors. Et il me dit, oui, t'as raison, tirant sur sa clope, t'as raison, Molière, c'est papa. Et puis et j'ai vu qu'il était très, très ému, quoi, très, très ému. Et puis je crois que, oui, c'est la dernière fois que je l'ai vu.
Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel ?
Laissons cela.
C'est-à-dire que non. Et à l'enfer ? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît, ça ?
Oui.
Aussi peu. Enfin, ne croyez-vous pas à l'autre vie ?
Ah.
Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez ?
Ce que je crois.
Oui.
Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8.
Je crois que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8. Ça, c'est une réplique qui doit vous plaire, non, Jean-Pierre Macri ?
Ah, ça me plaît, puis tout le reste.
France Inter, 2004.
Ouais, cette liberté, la liberté de ce type, c'est formidable.
C'est ce qui vous plaît dans ce personnage ?
Ah oui, j'adore Don Juan. En tout et pour tout.
Vous l'avez déjà interprété ?
Non, j'ai interprété Sganarelle. J'ai interprété le bon sens populaire.
Vous pensez qu'une œuvre, ça peut changer l'état du spectateur une fois qu'il l'a lu, qu'il l'a vu, qu'il l'a écouté ?
Je pense que 99 fois sur 100, non. Mais pas 100 fois sur 100. Sacha Guitry, qui n'en était pas à une connerie près, a dit « Je ne sache pas que le spectateur qui sort de l'avare soit plus généreux avec la dame du vestiaire. » Et je pense qu'il a raison à 99%, mais pas à 100%, parce que moi je sais que je sais ce que m'ont fait les textes, et je sais ce que m'ont fait les héros que j'ai aimés, et je sais ce que je suis devenu et ce que j'étais. Et donc c'est pour ça que j'écris, parce que je sais qu'il y a 7 personnes sur 100 qu'on soulagera, à qui on fera du bien, et qui peut-être verra les choses d'une autre façon.
Jean-Pierre Bacri, tellement libre. Avec Anne Alvaro, comédienne, Cédric Clapiche, réalisateur, Faudé Silla, ancien président de SOS Racisme, Sam Kerman, acteur et réalisateur, Michel Leclerc, réalisateur, Olivier Doran, acteur et réalisateur, Grégoire Osterman, acteur. Merci à Agnès Jaoui, Philippe Nil et Valérie Benahim. Extrait des films Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Coup de foudre de Diane Curis. Escalier C de Jean-Charles Takela. Un air de famille de Cédric Clapiche. Le goût des autres d'Agnès Jaoui. La vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc. Place publique d'Agnès Jaoui. Don Juan de Marcel Bluval. Documentation ENA Juliette Cuif avec la collaboration d'Amélie Signoret de la Bibliothèque Centrale de Radio France. Prise de son Frédéric Héroux. Mixage Philippe Mercher. Attachée de production Sylvia Favre. Productrice coordinatrice Anaïs Quien. Un documentaire de Johanna Bedeau et Assia Khalid.